answer?
Yes, Jim.
Thanks. Who's Joe?
Never heard of him. Does anyone know the peanut vendor?
Yes, sir.
C'est difficile de parler après ça, mais s'il y a des premières réactions dans la salle, c'est vraiment une discussion. Mais donc, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire maintenant ou plus tard, vous levez la main, on passe un micro. Voilà.
Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, comme je le disais, enfin, je pense que je l'ai dit assez fort, mais je le répète, ça m'a donné envie de revoir Pearl Harbor. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à une sorte de proto-histoire des plans d'aviation un peu sophistiqués, même si ce sont des maquettes. Mais il y avait deux, trois choses intéressantes, j'ai trouvé, dans la mise en scène. Voilà. Après le reste du film, je suis un peu dubitatif. Je trouvais ça un peu étrange comme film. Mais sinon, l'aspect recherche d'effets, de vol, etc., c'était intéressant. Voilà.
Et en fait, c'est un mélange de maquettes et de moments documentaires. Mais voilà, donc ça alterne, enfin, notamment la grande scène dans la montagne au début, avec le médecin, là, c'est vraiment documentaire.
D'accord, ok. Mais de belles maquettes, en tout cas.
Non, mais on pourrait peut-être commencer par la fin du film, qui est du coup, s'il y a des gens qui aiment Godard dans la salle, ils auront peut-être reconnu un extrait qui apparaît dans beaucoup de ces films de montage. Voilà, ça fait partie des scènes avec celle de l'aveu contrit de John Crawford dans Johnny Guitar, qui reviennent, voilà, dans beaucoup de films de montage de Godard, et à juste titre, parce que c'est, voilà, c'est la fin qui est extrêmement importante et extrêmement maligne, en fait, et qui résume beaucoup de thèmes du film. Donc on pourrait partir de là, du coup, à partir du subterfuge de la pièce, et donc voilà, jusqu'au bout, voilà, Jeff devra passer par un accessoire pour enfin demander à Bonnie de rester. Et c'est, voilà, c'est intéressant de partir de là, parce que c'est pour parler de ce personnage de Jeff, qui est donc un personnage typiquement hoxien, d'homme viril qui doit tout le temps prouver des choses, enfin, voilà, de l'héroïsme même un peu idiot, enfin, qui va toujours trop loin. Parmi les hommes du film, il y a que Dutch finalement qui est censé voilà, qui a les pieds sur terre, quoi, et voilà, jusqu'au bout, il devra utiliser un subterfuge pour déclarer sa femme, mais il le fera finalement grâce à la mort du kid, qui du coup est ce qui nous permet d'appeler ce film un mélodrame. C'est vraiment la mort du kid, jusque dans le jeu de mots que fait le film, savoir que voilà, kid, l'enfant, qui surnomme Jeff papa, donc la mort de l'enfant, c'est peut-être le plus gros cliché du mélodrame. Et donc voilà, Hawks le rejoue un peu en mode mineur, et c'est donc c'est intéressant de voir que c'est par Kid qui lui dit toujours les choses, qui a donc une relation un peu saine avec Jeff. C'est en utilisant un artefact qui vient de ce personnage qui va réussir enfin à se détacher de ses démons et à pouvoir demander, même par ce subterfuge, à Bonnie de rester.
Ouais, c'est intéressant sur cette idée du père et du fils. Déjà parce que, enfin, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, quelque chose qui nous rattache. Ah oui, j'étais un peu loin du micro. Quelque chose qui nous rattache toujours à l'enfance, dès qu'il y a des avions, je crois, entre le petit garçon et l'adulte. Et justement, ils ont tous ces hommes, tous les hommes qui forment cette espèce de troupe, puisque finalement c'est un film de groupe. Enfin, c'est un film de, une sorte de film de troupe. Ce qui les rattache tous dans leur étrange rapport à leur virilité, c'est qu'effectivement ils sont toujours dans une forme d'obstination et quelque chose d'assez acharné à accomplir leur entreprise, puisque c'est vraiment une entreprise, cette petite compagnie. Aller au bout de cette entreprise, ça suppose pas vraiment de répondre à des idéaux moraux, mais simplement à être le plus efficace, à être dans une recherche d'efficacité dans l'action. Et le film est principalement, en fait, y compris dans sa mise en scène, tourné autour d'actions précises, de détails qui ont tous leur importance. Et je pense que quand je dis d'importance, c'est y compris en termes de conséquences. C'est-à-dire que c'est un film où on a l'impression que pour ces personnages, chaque geste a potentiellement des conséquences considérables. Et donc, y compris en termes de responsabilité. Par exemple, il y a toute cette scène au début où la jeune femme arrive dans cet endroit et quelque part elle entraîne un concours de circonstances qui fait que elle entraîne la mort d'un des personnages. Alors elle dit à Carter, enfin à Jeff, je ne sais pas s'il faudra Jeff ou Geoff, c'est un peu. Elle lui dit voilà, mais est-ce que je suis responsable, est-ce que je suis coupable de tout ça? Elle se sent extrêmement coupable et lui ironise sur la situation en lui disant qu'en fait il y a un concours de circonstances, il y a un arbre, il y a du brouillard, il y a un certain nombre de choses. Et donc il a une vision parfaitement pragmatique et de pure efficacité et succession d'actions pour aboutir à quelque chose, alors que elle est. Apporte immédiatement de la sensibilité et de la culpabilité. Et en fait, dans l'opposition quelque part entre les hommes et les femmes dans ce film, il y a cette idée que les hommes seraient dans une pure intelligence de l'action, alors que les personnages féminins sont beaucoup plus dans quelque chose qui serait sentimental. Alors c'est quelque chose qui est assez misogyne, hein, sur le papier, et en fait, j'étais assez intrigué par cette question des rapports hommes-femmes dans le film, et il existe un texte de Jean Douchet dans lequel il montre qu'il y a une forme de dialectique dans le rapport entre les hommes et les femmes dans le cinéma d'Ox en particulier. Il ne parle pas de ce film, mais je pense que c'est assez valable, et dans lequel il explique qu'au fond, il y a cette logique de complémentarité qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma classique américain, c'est-à-dire que quelque part, le personnage masculin est dans une logique de conquête de l'espace, et donc de l'extérieur, alors que le personnage masculin est plutôt, le personnage féminin, pardon, est plutôt dans la chasse de l'homme, et donc dans un espace plutôt domestique, et qu'elle est, en ce sens, quelque part, qu'elle tire l'homme, et qu'elle est toujours une forme de sensation, vers quelque chose qui le ramènerait à sa nature, enfin, un élément naturel, et non plus un élément rationnel, et d'emprise, de rapport pragmatique au monde. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une forme de misogynie, et en même temps, il y a cette idée contraire que quelque part la femme serait une forme de vérité de l'homme, enfin qu'elle le ramènerait, qu'elle révélerait chez l'homme ce qui précisément est sa part de sentimentalité et sa part de et précisément à partir du moment où les femmes arrivent dans ce film, on sort de leur rapport purement quotidien, systématique à un certain nombre de choses pour faire apparaître des questions de responsabilité et de rapports filiales et de choses plus fortes qui se révèlent petit à petit. Et je trouve ça, de ce point de vue, assez émouvant de voir que, bon, alors, il ne s'agit pas de dire que le film est évidemment misogyne sur le plan de personnages féminins faibles, parce que là, je pense qu'on aura l'occasion de dire que c'est un très beau personnage par ailleurs. Mais il y a quelque chose qui est étonnant dans leur virilité un peu trouble, à la fois la féminité toujours de Cary Grant et en même temps sa virilité, enfin une sorte d'instabilité là-dedans. Je sais pas ce que tu
veux. Oui. Non, et puis c'est ce qui est intéressant par rapport au personnage féminin qui du coup effectivement lutte avec les clichés de la femme qui pleure l'aviateur au loin. Enfin, elle lutte avec ça pendant tout le film pour finalement l'accepter en fait et le faire accepter à Jeff. Mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que le personnage, enfin Jean Arthur, Bonnie, c'est le personnage qui dirige tout le récit. On le voit d'ailleurs dès cette intro, voilà, qui est une des rares scènes d'extérieur de ce film tourné en studio, quand c'est elle qui va s'immiscer dans le récit. On le voit quand elle s'approche. De la petite fête espagnole et qu'elle chante comme ça la dernière partie de la chanson. Elle est là pour s'immiscer vraiment dans des endroits où elle n'aurait pas typiquement sa place, et à partir de là c'est elle qui dirige le récit, c'est elle qui décide de s'arrêter, de ne pas prendre son bateau. Avant ça, c'est elle qui dit aux deux Américains qu'elle va leur offrir un verre. Il y a tous ces premiers pas comme ça qui sont plutôt, disons, dans les films classique de l'époque réservée à l'homme, notamment tout ce qui revient à déclarer sa flamme, etc., voilà, sont entrepris par Jean Arthur. Donc il y a une belle ambiguïté là-dessus du personnage féminin qui effectivement lutte à l'intérieur d'un canevas qui serait un peu misogyne, et on voit qu'il y a une vraie fascination pour la figure de l'homme viril qui accomplit son devoir pour Hawks. Mais en même temps, voilà, il y a ce personnage qui dirige tout le récit, qui a le droit à avoir toutes les clés, toutes les clés de ce récit, du coup jusqu'à la scène finale et ce plan emblématique du rideau de pluie, qui même s'il y a des plans derrière de l'avion qui décolle, et en soi le plan final, le vrai plan final du film d'ailleurs, je parlais de Godard, il coupe à ce moment-là en général quand il utilise cet extrait-là.
Oui, c'est très juste. D'ailleurs, même dans le détail de ces attitudes, de ces gestes, il y a une forme de masculinité qui est mise en avant parfois sur plein de choses, enfin, de ce qui, en tout cas, dans des films de cette époque, peut apparaître ainsi. Par exemple, si on suit tout son parcours, effectivement, on l'accompagne, c'est elle qui nous conduit dans le récit. Il y a d'abord ce moment où elle retourne l'épée contre l'espèce de sabre contre les deux garçons. Et puis ensuite, elle arrive, elle commande elle-même un whisky. Et plus tard, il y a comme ça un certain nombre de choses en fait, il y a deux personnages féminins, parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement elle, il y a une sorte de contraste entre les deux, entre un personnage qui est glamour, qui est d'ailleurs tout en rondeur, enfin pas en rondeur, mais au sens où, même dans sa manière de s'habiller, etc., c'est beaucoup plus dans les volutes et tout, alors que le personnage de Bonnie est très... c'est des vêtements beaucoup plus anguleux et bien, il y a une scène où elle vomit, quoi. Enfin, c'est pas des choses qui sont associées vraiment à quelque chose de glamour et de... Donc oui, de ce point de vue-là, je trouve ça assez beau. Ce que je trouve aussi intéressant dans le film, c'est que il y a cette espèce de fusion, en même temps d'ambivalence entre la comédie et la tragédie. C'est d'ailleurs pour ça, on pense au mélodrame, alors c'est pas trop. Rivette, dans un extrait connu sur le film, lui parle de tragicomédie en renvoyant ça à Corneille, mais c'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments de comique et des éléments de tragique, alors je ne suis pas sûr que ce soit ce qui définisse à proprement parler le mélodrame pour le coup. La tragédie ici, elle serait surtout dans le fait que cette idée que les hommes sont donc en lutte, ces hommes-là sont en lutte avec le milieu et qu'ils sont avalés par le milieu régulièrement. Enfin, par le milieu, j'entends par là, tous ces éléments qui sont déchaînés, parce qu'on retrouve vraiment tous les éléments, on retrouve bien sûr l'eau, on retrouve le vent, on retrouve même le feu avec l'incendie, on retrouve la terre qui les écrase toujours, et cette notion de gravité, justement, quelque chose qui les... de gravité à la fois au sens du sérieux et d'une forme de quelque chose doit être terre à terre, et en même temps cette gravité très, très littérale d'être aspiré par le sol possiblement. Et donc cette idée de tragédie, elle tient aussi au fait qu'il y a une forme de répétition sur laquelle repose le film, y compris dans sa structure, à la fois par des effets de symétrie entre les différentes parties. Alors, c'est un film très nocturne aux ses deux extrémités avec une séquence d'urne au milieu. Enfin, bon, y a beaucoup de... même si finalement cette symétrie... il y a une forme d'échappatoire à la fin, puisque là où elle devait reprendre son bateau, elle est arrivée en bateau, elle ne le reprendra pas. Mais plus généralement, leur vie à eux de tous les jours, elle est rythmée par des choses qui semblent revenir toujours. Et au début du film, on a l'impression que tout a déjà été joué une première fois. C'est-à-dire que ils transportent des courriers qui reviennent tous les jours régulièrement. Il y a ce bateau qui arrive probablement chaque jour ou chaque semaine. Là, dans la séquence de drague tout au début, ils ressortent les mêmes phrases que d'habitude. Cet homme incarné par Cary Grant retrouve une femme avec laquelle visiblement il est confronté aux mêmes difficultés que les précédentes fois, et auquel il ressort la même phrase sur le fait qu'il ne veut pas faire subir ça à une autre femme. Enfin, tout semble se répéter en fait constamment dans le film, y compris ces morts qui reviennent. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très pesant dans le film et qui trouve un contraste dans ces éléments de... à la fois dans le hasard, parce que la pièce, c'est à la fois... ce que tu disais tout à l'heure, à savoir une manière un peu de ruser avec cette virilité, mais c'est aussi tout au long du film un certain nombre de coups tendus, de coups de dés un peu, de le hasard, qui va partir, qui va s'en aller, etc. Les personnages prennent la vie de manière générale avec une certaine légèreté, parce que, et avec cet élément de comique qui revient souvent, comme contraste et comme manière aussi, en termes de mise en scène pour le coup, et de narration, de nous écarter de ce qui serait simplement une tragédie annoncée pour laisser la place à une forme de suspense et de suspension, qui je trouve fait aussi le charme du film.
Oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, développer les éléments comiques
Oui, bien sûr. Merci. Ce qui est amusant, c'est que du coup, en 1939, Hawks, il est entre deux de ses plus grandes comédies, que sont L'impossible Monsieur Bébé et La Dame du Vendredi, qui sont du coup des screwball comédies. C'est ces comédies qui étaient basées sur la richesse, la vitesse, pardon, des dialogues. Notamment dans La Dame du Vendredi, à une vitesse complètement dingue, les rapports entre les hommes et les femmes, des rapports tendus. Et donc là, on voit vraiment que si le film, il est dans un cycle mélodrame et plutôt une tragédie, presque tous les dialogues sont des dialogues de screwball comédie, fonctionnent avec des doubles sens, des jeux de mots, tout ce jeu amoureux de Jean Arthur et Cary Grant porte en lui beaucoup de comédie, parce que entre deux pôles contraires qui se tendent et se détendent. Et notamment, par exemple, il y a un peu des allers-retours amoureux entre eux, mais la scène où ils se réconcilient est une scène typique de screwball comedy, où il rentre, elle est dans sa baignoire, le lieu fonctionne un peu comme un théâtre, et c'est presque un huis clos, en fait, un huis clos aérien, c'est curieux.
Il y a la cafetière, lorsqu'il touche deux fois.
C'est ça. Et il se réconcilie autour d'un élément du quotidien qui est la cafetière, sur laquelle il se brûle à deux reprises. Et ça, c'est vraiment un truc typique de comédie, de créer des liens à partir d'objets comme ça.
Ouais, de manière générale, il y a beaucoup d'objets et de petits détails et de petits accessoires qui ont une importance, notamment la cigarette, on n'en a pas parlé, mais évidemment, c'est l'élément qui revient absolument tout le temps et auquel on donne le sens qu'on a envie, d'ailleurs, parce que c'est assez mystérieux, cette cigarette qui... il n'a jamais d'allumette et donc il demande toujours à ce qu'on la lui allume. Donc je ne sais pas ce que ça dit du personnage, on se posait la question entre nous, mais voilà.
Le seul moment où il a une allumette, c'est pour empêcher Kid de frapper Kilgannon, ce qui est une très belle idée, quoi. Il a jamais d'allumette pour lui, mais il en a quand il a besoin de sauver quelqu'un, quoi.
Oui, d'ailleurs, il y a une réplique assez drôle à ce moment-là. Je ne crois pas qu'en français ça donne grand-chose, mais comme il pense encore à... Il lui demande s'il pense encore à la femme qu'il a connue à ce moment-là, et il lui dit « Do you still carry the torch ?» Est-ce que tu penses encore à elle ? Mais en français, mais ça, littéralement, c'est « Est-ce que tu portes encore la torche ?» Et à ce moment-là, il lui allume sa cigarette. Enfin, il y a des détails, tout est très, très précis en termes à la fois de réplique et d'utilisation de l'espace, des éléments et du décor... Donc je pense que l'aspect comique, il tient plutôt à ça. Mais effectivement, le film est très très lourd et très très macabre par certains aspects. Il y a des morts qui s'accumulent. Et même, en fait, l'horizon final, de toute façon, et c'est là qu'est aussi l'élément mélodramatique, c'est que quelque chose plane toujours, quoi. Cette finale est ni vraiment happy end, ni autre chose. D'ailleurs, elle est derrière un rideau de pluie. C'est-à-dire qu'elle a à la fois un grand sourire et une forme de joie et de confiance dans ce qui... En plus, il y a cette espèce de grand avion qui part. Enfin, c'est un élan vraiment de joie et c'est paroxystique, quoi, et en même temps elle regarde ça derrière un rideau de pluie.
Si elle a soigné quelque chose pendant sa semaine là, le personnage de Bonnie, c'est bien que les larmes de Cary Grant coulent à la fin, parce que du coup le film fonctionne un peu en miroir, avec une première mort au début, une deuxième mort à la fin. Et par exemple, on peut partir des scènes musicales du film pour analyser cette idée, mais le jeu viril veut que quand un personnage meurt, on fait comme si rien ne s'était passé et on continue à travailler tranquillement. Et c'est là que Bonnie a vraiment du mal à sentir ça, avec la scène du steak, etc. Ils font comme s'ils n'avaient pas compris, et puis finalement elle va rentrer un peu dans leur jeu, et il y aura ensuite cette scène de piano assez savoureuse, où là, du coup, il y a la joie qui éclate, et au moment où ce petit bout de... cette petite scénette musicale s'achève, elle commence à entamer comme ça un petit début de musique triste au piano, mais elle est tout de suite arrêtée. Et finalement, à la fin du film, à la mort du kid, là, il n'y a personne pour chanter de façon joyeuse, il y a juste la sérénade funèbre espagnole, et personne ne va à l'encontre de ça. Donc quelque part, elle a un peu permis à tous ces mecs d'accepter leur tristesse.
J'ai cru comprendre que vous évoquiez à un moment donné la féminité du personnage de Cary Grant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ?
Alors, moi, je ne le pensais pas forcément uniquement dans ce film-là, mais de manière générale, je pense que c'est aussi visible ici. Mais de manière générale, Cary Grant est un acteur qui a une forme d'ambivalence à ce niveau-là, qui tient à la fois à son côté extrêmement élégant et à une forme de distinction et de maniérisme, quelque part. Les deux sont à la fois surjoués, c'est-à-dire qu'on surjoue sa masculinité tout en le mettant généralement dans des situations où il est humilié dans sa propre virilité. Alors c'est peut-être moins frappant ici en termes d'humiliation à proprement parler, mais tout de même le jeu qui se joue entre eux avec Bonnie le place dans une certaine difficulté, ne serait-ce que la scène où il pleure, enfin, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, très, très émouvant et inattendu, surtout qu'en fait, la séquence est construite de manière assez curieuse, puisqu'on est d'abord plus ou moins face à lui, mais il a la tête un peu baissée. Donc, quelque part, ça ne nous est pas masqué d'emblée. Elle échange et elle lève les yeux, et là, on a en fait son point de vue à elle et ses yeux qui sont complètement embués de larmes. Et je trouve que le plan, parce qu'il arrive en décalé de cette façon-là, est extrêmement, extrêmement saisissant.
Et encore une fois, c'est elle qui le prend dans ses bras pour le consoler et pas l'inverse à ce moment-là. Non, mais sinon, c'est vrai que Cary Grant, c'est un des personnages un des acteurs de l'époque à avoir le maquillage le plus apparent, souvent peut-être pas tant dans ce film-là, mais voilà, notamment sur ce plan des larmes, on voit le mascara qui entoure les yeux. Il y a peut-être aussi quelque chose là-dessus. Enfin, notamment, ça se voit plus dans des films en couleur, peut-être, notamment elle et lui, mais. Mais j'imagine que tu parlais un peu
jusqu'au travestissement aussi dans certains films.
Oui, dans Aller coucher ailleurs, du même Hawks, effectivement.
De manière générale, chez Hawks, c'est ce que j'ai essayé de suggérer un peu tout à l'heure en disant que les personnages étaient ramenés dans la Screwball, et très souvent, c'est justement une sorte de guerre des sexes qui se joue. Et dans cette guerre des sexes, il y a une forme de renversement et l'homme se retrouve généralement... en quelque sorte, enfin oui, il y a ce renversement de sa propre virilité. Alors, un film qui est assez clair là-dessus, c'est Le sport favori de l'homme. Alors, bon, le titre fait un peu peur, mais justement, c'est un film dans lequel, alors, en l'occurrence, c'est pas Cary Grant, c'est Rock Hudson, mais qui est. Alors, en plus, dans ce film-là, il y a un contexte qui est particulier, c'est que Rock Hudson est connu pour être un acteur dont on exhibait au cinéma la virilité. Alors même qu'il était, on savait que dans la vie privée, il était homosexuel. Et le film, quelque part, a été, enfin, en tout cas aujourd'hui, est perçu comme mettant en scène quelque part sa propre, tournant en dérision cette manière de créer une icône virile en la déconstruisant quelque part dans une séquence, dans un jeu de renversement avec un personnage dans des situations de screwball.
Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez sur. Sur le rapport de la complémentarité entre l'homme et la femme. Moi, il y a quelque chose que je trouve très beau entre le début et la fin. C'est d'une part que cette harmonie qui finit par se lier entre les trois personnages au début, c'est-à-dire les deux dragueurs et elle, c'est que la femme s'intercale entre les deux. Et il y a cette idée qui est rejouée dans la fin, dans un détail que je n'avais pas vu la première fois, que je trouve vraiment magnifique, c'est que quand ils repartent en avion, c'est deux moitiés d'hommes, en fait, qui ont chacun un bras dans le plâtre, et qui vont se compléter pour tenir le volant. Il y a toute cette idée, justement, que le personnage féminin, en apportant une forme de désordre, de chaos, aussi avec le hasard, la pièce, etc., finit par trouver cette harmonie parfaite qui s'incarne à la fois par cette pièce qui deux fois la même face, mais aussi que c'est en fin de compte ce sont deux demi-hommes qui se réunissent pour pouvoir n'en former qu'un. Et le film s'achève quand même littéralement sur ça, avec un champ contre champ avec le personnage de Bonnie.
Oui, et par ailleurs, c'est intéressant de voir que la balle qu'a tirée Bonnie par accident n'est pas ressortie. Elle est coincée, donc voilà, quelque part on a cet indice de la fin 20 minutes avant, qui est que c'est bon, Bonnie restera avec lui puisque la balle reste en lui. C'est assez amusant comme détail. Enfin, en fait, tout passe par des objets, en fait, dans ce film, jusque du coup on y revient à chaque fois, mais c'est vrai que ce qui est particulièrement moi, ce qui me touche énormément, bon, là ça devient plus un geste poétique, c'est que même une fois que Bonnie a compris le jeu de la pièce, quand elle est derrière le rideau, elle continue à la tourner comme pour rejouer à l'infini cette belle découverte qu'elle a fait. Voilà, ce truc de geste, moi, c'est un des peut-être un de mes gestes préférés de l'histoire du cinéma, c'est un peu con à dire, mais c'est un geste qui me travaille en tout cas.
Mais d'autant que c'est ce qui est... En fait, dans tout le film, j'avais pas prêté attention en le voyant la première fois, mais pendant tout le film, le personnage de Kid lance cette pièce tout le temps et c'est un objet qui revient tout le temps, tout au long du film, et auquel on ne prête pas forcément l'attention qu'il mérite pendant la première partie. Et du coup, oui, c'est un geste d'enfant aussi. Quoi,
D'ailleurs, Jeff essaye de l'attraper à un moment, agacé que Kid n'arrête pas de la lancer, mais Kid ne la rattrape pas tant. Il est encore un peu trop tôt pour que Jeff comprenne.
Ce film me fait penser à Saint-Exupéry. Je ne sais plus quel est le livre qui se passe sur le courrier en Amérique du Sud. C'est Courrier Sud ou Vol de Nuit. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que ça a servi de cadre? Est-ce que le réalisateur avait lu Saint-Exupéry?
Je ne crois pas. Et en fait, le film date de 1939. Je ne sais pas précisément. Je ne saurais pas dire de quand date le livre précisément. Je ne sais pas si toi tu sais d'ailleurs.
Non, je ne sais pas de quand date le livre, mais c'est vrai que Hawks a été pendant la Première Guerre mondiale instructeur d'aviation. En fait, il sait conduire des avions. Il a fait plusieurs. Enfin, je ne réponds pas du tout à la question, mais sur ce qui peut l'intéresser en tout cas dans l'aviation et qui ne vient pas forcément de Saint-Exupéry vient en fait aussi de sa propre vie. Et d'ailleurs, c'est pas son premier film. Avec des aviateurs. Il y en a notamment un autre qu'il a réalisé quelques années plus tôt qui s'intitule en français Brume, en anglais Ceiling Zero, qui est en fait un peu un brouillon de ce film, et où c'est déjà voilà, le brouillard qui va amener le mélodrame.
Et par rapport à Vol de Nuit, je trouve qu'il y a, même si on y pense, c'est vrai, et ça m'avait frappé aussi, et en même temps, il y a quelque chose qui est assez différent dans le fait que une chose est singulièrement absente dans ce film, c'est des séquences par exemple contemplatives sur l'aviation, quoi. C'est-à-dire que là, l'aviation, c'est toujours l'essentiel du film se tient quand même en huis clos et dans un espace où les tensions se sont entre les personnes, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on part vers l'extérieur, c'est presque quelque chose de pulsionnel, et voilà, mais on n'a pas de séquence véritablement de suspension aérienne où j'ai l'impression que c'est vraiment une lutte avec les éléments plus que... il me semble, dans mes souvenirs de Vol de Nuit, on regarde la nuit, on regarde des choses assez... il y a une dimension plus contemplative qui est absente, parce que ce qui intéresse Hawks, je crois, c'est vraiment le travail, l'efficacité de l'action. Et en même temps, de faire entrer en compte des dynamiques passionnelles et des tensions qui sont des tensions intrapersonnelles, mais qui se traduisent justement dans le ballet aérien. Mais c'est plus ça pour moi.
Tous les personnages en fait luttent avec la nature. Enfin, c'est vrai, sur toutes les scènes d'aviation, chaque fois qu'on voit un avion dans le ciel, il y a un problème à régler, quoi. Et oui, il y a un seul personnage de façon assez amusante qui vit en harmonie avec la nature, c'est Tex, qui du coup est perché sur sa montagne et qui vit avec un âne, voilà, comme ça. Il est ni du coup dans le théâtre, enfin il n'est pas du tout au courant puisqu'il a que les infos par radio des différents d'histoires amoureuses qui se jouent dans le petit théâtre de Barranca, et du coup grâce à ça c'est comme si lui pouvait vivre un peu en harmonie dans sa cabane.
Il y a une forme de hors-champ là-dessus et c'est très beau. Je me faisais la réflexion que toute la première partie notamment pourrait presque s'écouter. Il y a la séquence où assez étonnante du premier crash. On ne filme que les personnages qui sont assemblés autour d'un téléphone et à la fois cette espèce d'incantation, de Colin Baranka, et puis ces personnages qui en plus s'expriment avec un accent particulier qui, j'imagine, facilite les échanges avec les pilotes. Mais tout est... On fait attention qu'au son. Et en plus la voix du pilote est extrêmement étonnante à ce moment-là, on dirait que c'est Hal dans 2001 qui parle, enfin c'est très, très étrange, et on pourrait presque écouter ça et en plus cette scène est assez étrange, c'est presque une scène où on voit un metteur en scène, enfin c'est un peu surprenant. Il y a un moment donné où ils prennent un projecteur et le calent ils le mettent en l'air pour qu'il
sache qu'on est en studio, c'est vraiment un projecteur
studio,
de cinéma,
et puis derrière il dit aux gens derrière lui de se taire pour faire un peu de cam sur le plateau, quoi. Et puis il donne ses ordres, quoi. Et donc on ne voit pas, on le voit un tout petit peu, mais l'essentiel de la scène c'est uniquement ce chant, on ne voit pas le contre-chant, quoi.
Il donne ses ordres, mais finalement le le résultat lui échappe. Donc peut-être, si on creuse la métaphore, ouais, peut-être qu'il y a un aveu de Hawks sur le fait de faire du cinéma. Et, non, mais je sais que notamment, Gene Arthur, apparemment, c'était la première fois qu'il travaillait avec Gene Arthur et qui a un peu imposé aussi son type de jeu au film et qui lui donne son originalité. Donc c'est vrai que c'est intéressant là-dessus.
Ouais, justement, sur le personnage de Bonnie, je ne sais pas si je l'avais oublié ou pas. Là, je revois le film et je me souviens de l'histoire de son père trapéziste. Et il y a quelque chose comme ça d'évident qui apparaît là, en le revoyant, qu'il manquait quelqu'un dans le groupe. Et le groupe, c'est hyper important chez Hawks. Et on l'attendait finalement. Alors même si le groupe se décompose, il va se recomposer et quelque chose va advenir avec elle. Mais elle raconte son histoire et elle dit d'emblée qu'elle fera partie du groupe dès le début du film finalement. Ça m'a à nouveau sauté aux yeux. Je ne sais pas si je l'avais identifié comme ça avant. Mais c'est assez réjouissant. Cette annonce, je vais arriver avec vous, je serai avec vous, ouais, de toute façon.
Et c'est par ailleurs une vraie réplique tragicomique, enfin, elle est quand même extrêmement étrange, enfin, c'est difficile de ne pas sourire, et en même temps il y a quand même la perte du père qui est racontée en deux répliques à partir de presque un gag, de passer, c'est une circassien, c'est très étonnant.
Parmi tous les détails, il y a un détail qu'on n'a pas, quelque chose dont on n'a pas parlé, ce sont les oiseaux. Et j'y pense parce que justement le moment où quelque part elle manifeste qu'elle a envie d'intégrer ce groupe et qu'elle fait partie, qu'elle aspire à faire partie quelque part de ça, ils sont devant, c'est juste, je pense, avant le crash. Et Cary Grant lui dit, mais de toute façon, tu dois penser que c'est juste des oiseaux, quoi, des beaux oiseaux de métal, un truc très, très féminin. Elle lui répond, non, je vois que ce sont des hommes volants. Et donc, elle les voit vraiment dans le côté, quelque chose de très masculin, de la conquête et d'aller vers l'extérieur. Et ce qui est fou, c'est qu'après, les oiseaux reviennent beaucoup dans le film, de manière assez ironique en plus, puisqu'il y a donc ces oiseaux sur lesquels on jette de la nitroglycérine et qui se vengent en écrasant l'avion. Et on avait projeté Sully l'année dernière, et j'avais pas du tout réalisé qu'il y avait une sorte de rejeu, parce que dans Sully, qui est un film de Clint Eastwood, l'avion, c'est aussi c'est une histoire vraie, mais ce sont des avions qui fracassent les réacteurs. Et il y a une sorte de réminiscence curieuse du film.
J'y ai pensé aussi.
Justement, pour faire le lien avec les oiseaux, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que derrière son côté très pratico-pratique, film d'aventure, parce qu'en fait, il y a une trame de film d'aventure très typique des années 30 là-dedans, ce qui pourrait faire vraiment mélodrame, c'est qu'il y a une dimension cosmique qui unit la totalité du groupe. Par exemple, justement, la question des oiseaux qui viennent se venger, comme s'il y avait un fatum qui allait s'opposer contre les personnages. Mais par exemple, un détail qui est très prosaïque, mais le fait que l'expression des sentiments passe par exemple par les éléments naturels. Le fait que Jeff, quand il est face au kid qui meurt, ne pleure pas, mais il a une goutte qui tombe régulièrement de son chapeau, comme pour signifier son sentiment. Et après, il va pleurer, il va actualiser ça plus tard. Et sur cette dimension aussi d'unité cosmique et d'unité du groupe, je trouve que le personnage de Jean Arthur est absolument extraordinaire dès l'ouverture, parce qu'en fait elle apparaît de manière très très bizarre. Quand elle descend du bateau après qu'on la voit en contre-plongée, elle passe derrière un matelot ou le capitaine, elle lui fait peur, elle lui fait boue, il recule, ensuite elle est suivie par les deux gars, elle se retourne, ils se mettent à se reculer aussi, comme si elle était une espèce d'aimant qui attirait ou qui mettait à distance les hommes. Et finalement, ce qui se passe avec l'avion qui se crache, c'est la même chose. En fait, le gars va retrouver Jean Arthur pour aller manger son steak avec elle, si c'est bien ça, et il fait littéralement des tours pour pouvoir aller se poser, et en fait il fait le tour de trop et il se crache, quoi. Donc je trouve ça intéressant. Puis aussi, c'est le personnage qui va unifier le groupe de manière littérale, puisque c'est elle qui accorde les joueurs de musique quand ils fêtent, entre guillemets, l'après de la mort du pilote. Voilà.
Je pense qu'on peut terminer sur cette image de Gene Arthur magnétique et aimanté, sauf si quelqu'un peut-être a d'autres choses, quelque chose qu'il voudrait partager. Non. Merci beaucoup.